Europa, Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guerriec en direct de Washington, mardi 22 mai 2018, Le Monde Aujourd'hui, édition de 19h30, temps universel. Au sommaire ce soir, au Burkina Faso, une opération antiterroriste a fait au moins 4 morts. Référendum sur la constitution au Burundi, les résultats étaient connus d'avance pour beaucoup de Burundais. Importante saisie de faux médicaments au Niger, un attentat suicide contre un convoi militaire en Somalie. Le président américain a reçu son homologue sud-coréen et fait planer le doute sur sa rencontre historique avec le leader nord-coréen. Ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais d'abord le journal. Au Burkina Faso, un gendarme tué, 3 assaillants abattus et au moins 6 blessés. C'est le bilan d'une opération de l'armée menée tôt ce matin pour démanteler un groupe de terroristes. Selon les autorités, ce groupe a été traqué à Rayongo, arrondissement 11 de Ouagadougou. Le ministre de la Sécurité a fait le point. Sur place, notre correspondant Lamine Traoré.
Des tirs ont été longuement entendus dans ce quartier périphérique de Ouagadougou, Rayongo. Depuis l'attaque du 2 mars à l'ambassade de France et à l'état-major à Ouagadougou, l'Agence nationale de renseignement travaille à démanteler des réseaux des terroristes présumés, des cellules dormantes à Ouagadougou. C'est ainsi que ce groupe a été localisé à Ouagadougou. C'est l'unité d'intervention de la gendarmerie qui a dirigé l'opération. Les présumés terroristes avaient un arsenal militaire lourd qu'ils ont utilisé pour riposter contre l'armée burkinabé. Suite à cette intervention militaire, le ministre de la Sécurité, Clément Savadogo, a tenu une conférence de presse.
3 terroristes présumés ont été abattus. Un 4e a été capturé. Dans cette opération, nous avons perdu un de nos vaillants combattants. Et nous avons également enregistré 4 autres blessés. Il y a 2 civils également qui ont été blessés.
Le ministre Savadogo n'exclut pas que d'autres réseaux terroristes soient encore à Ouagadougou. Le ministre de la Sécurité demande la collaboration des populations. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Dans le centre du Mali, 2 hommes âgés ont été tués lundi par de présumés djihadistes à Ouaka, dans la vallée du fleuve Niger. Les assaillants accusaient les 2 hommes d'être opposés aux intérêts des djihadistes, d'après l'AFP. Les djihadistes ont affirmé qu'ils allaient revenir tuer tous les autres ennemis de l'islam, a expliqué un habitant du village. Dans le nord du Nigeria, 4 mois après l'enlèvement d'une 100aine d'élèves à Dapchi par Boko Haram, l'école a rouvert ses portes. Mais l'immense majorité des lycéennes ne veulent pas retourner en classe par peur des représailles de Boko Haram qui leur a ordonné de ne pas retourner à l'école en échange de leur libération. Le 19 février dernier, des combattants avaient kidnappé 111 jeunes filles. Après un mois de captivité, 105 élèves de Dapchi ont été relâchés. 5 sont mortes et la seule chrétienne du groupe est toujours détenue. Importante saisie de produits pharmaceutiques contrefaits à la frontière entre le Niger et le Burkina Faso. La police nigérienne a intercepté 29 tonnes d'une valeur de plus de 500 millions de francs CFA. De Niamey, Abdulrazak Idrissa.
C'est au poste de police de Makolondi, à la frontière entre le Niger et le Burkina Faso, que les 10 produits ont été saisis dans 2 camions gros porteurs en provenance du Ghana. Une cargaison de 29 tonnes de divers produits pharmaceutiques présenté à la presse par le responsable de l'information et des relations publiques de la police nationale, le commissaire Abou Moutari.
Les premières vérifications ont révélé que les camions transportent près de 29 tonnes de produits pharmaceutiques composés de d'Avigra, communément appelé Viagra, de Socomol, d'Anticolt et de Abivita, avec comme destination finale Gaya, dans la région de Douce.
La valeur marchande de ces produits à la vente est estimée à 560 millions de francs CFA. Une enquête est ouverte pour situer les responsabilités et déjà 3 personnes sont interpellées et gardées à vue à la police judiciaire. Abdelrazak Idrissa, Niamey, VOA Afrique.
près de 400 migrants africains ont été sauvés la semaine dernière dans le désert nigérien. Ils ont été retrouvés avec peu d'eau et sans nourriture, d'après l'Organisation internationale des migrations, qui n'a pas dévoilé les nationalités des migrants. Tous les survivants sont actuellement hébergés dans un des centres de transit à Arlit, en attendant leur départ vers leur pays d'origine, explique l'organisation. En République démocratique du Congo, une personne contaminée par le virus Ebola est décédée à Wantanga, dans Bandaka, dans le nord-ouest du pays. On compte désormais 27 morts en deux semaines sur 51 cas confirmés ou suspects. Les premiers vaccins ont été administrés à une dizaine de soignants. Le nombre de personnes ciblées par cette première phase de vaccination est estimé à plus de 600, pour l'essentiel le personnel de santé et des personnes à haut risque, qui ont été en contact avec des malades. La RDC a réceptionné 8500 doses de vaccins, selon les autorités. L'opération de vaccination ciblée se poursuivra à Bikoro, épicentre de l'épidémie, à la frontière avec le Congo-Brazzaville. La grande majorité des enfants qui rejoignent les groupes armés en République démocratique du Congo le font volontairement, faute d'alternative, c'est ce qu'indique l'ONG suédoise War Child. Depuis le départ de RDC de Joseph Kony, armée de résistance du Seigneur, la LRA, fin 2012, on assiste de moins en moins à des recrutements forcés d'enfants par des groupes armés, a déclaré lors de la présentation de ce rapport le professeur Bavon Moupé, consultant indépendant ayant participé à son élaboration. Il a été cité par l'AFP. L'amiral Jacques Langsade, ancien chef d'état-major français des armées au moment du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, plaide pour l'ouverture des archives militaires dans ce dossier. Interrogé par le journal Le Monde, il affirme que l'armée française n'a rien à se reprocher. Je ne pense pas que cela puisse dévoiler quoi que ce soit. 24 ans après, sur l'organisation des armées, il n'y a pas de secrets qui doivent être préservés, ajoute-t-il. Le président du Rwanda, Paul Kagame, reçu demain par Emmanuel Macron à l'Élysée pour la première fois depuis 2011, alors que les relations entre Paris et Kigali restent très acrimonieuses depuis le génocide de 1994. C'est ce qu'on a appris auprès de l'Élysée. Un attentat suicide visant un convoi militaire près de Mogadiscio en Somalie a fait plusieurs morts. Le groupe Al-Shabaab a revendiqué l'attaque. Marie Benson.
L'attaque suicide visait un convoi militaire à Afgoye, à 30 km de Mogadiscio. D'après Abdikadir Ali, un responsable de la police, un camion militaire a été touché et un second véhicule a été endommagé. Le convoi transportait des soldats qui ont été formés par les États-Unis. Le groupe Al-Shabaab, affilié à Al-Qaïda, a revendiqué l'attaque après plusieurs tentatives antérieures sur la même route. Abdiaziz Abu Moussab, porte-parole du groupe djihadiste, a déclaré qu'un de leurs combattants a attaqué le convoi et que selon lui, un camion a été détruit et 12 soldats tués. Les autorités somaliennes avaient un bilan différent. Les djihadistes essayent de renverser le gouvernement qui est soutenu par la force américaine AMISOM.
Dans l'est de la Libye, au moins 2 militaires ont été tués et un autre enlevé dans 2 attaques contre des barrages tenus par l'armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar. L'attaque s'est produite à l'entrée de la ville d'Oujla. Pas de revendication pour le moment. En mars, toutefois, à noter, le groupe État islamique avait revendiqué 2 attentats contre des barrages de l'ANL dans cette région.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a laissé entendre que son sommet historique avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, prévu le 12 juin à Singapour, pourrait être reporté. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Je pense que Kim Jong-un est sérieux. Je pense qu'il est absolument très sérieux, a dit M. Trump aux côtés du président sud-coréen Moon Jae-in en visite à Washington pour discuter du prochain sommet Trump-Kim. Toutefois, le président américain a ajouté qu'il est possible que le sommet n'ait pas lieu le 12 juin. Il évoque certaines conditions à remplir sans autres détails. Donald Trump a dit avoir noté une différence de ton de la part de la Corée du Nord après une deuxième réunion au sommet entre Kim Jong-un et le président chinois Xi Jinping. il y avait une attitude différente après cette rencontre et j'ai été un peu surpris, a dit le président américain. La semaine dernière, Kim Jong-un a menacé d'annuler la rencontre avec M. Trump. Les tensions se sont cristallisées autour des propos de John Bolton, conseiller de M. Trump, qui avait suggéré de dénucléariser la Corée du Nord en suivant le modèle libyen. Le président Trump a démenti les propos de son conseiller, affirmant que le modèle libyen n'est pas celui envisagé pour la Corée du Nord.
Le ministre palestinien des Affaires étrangères, Iyad al-Maliki, a appelé la Cour pénale internationale à ouvrir immédiatement une enquête sur des crimes de guerre et d'apartheid présumés envers les Palestiniens. Iyad al-Maliki s'est entretenu durant une heure avec la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, au siège de la Cour à La Haye. La CPI a lancé en 2015 une enquête préliminaire sur des accusations de crimes de guerre en Israël et dans les territoires palestiniens. Mais elle doit encore décider l'ouverture d'une enquête en bonne et due forme. Syrie, une attaque du groupe État islamique sur une position du régime dans le désert de la Badia. Bilan, 26 morts parmi les forces pro-gouvernementales, d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Parmi ces morts figurent des miliciens iraniens, précise l'OSDH. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
L'Ouganda a lancé un appel d'offres pour la construction et l'exploitation d'une nouvelle autoroute de 95 km qui relie la capitale Kampala à la ville de Jinja dans l'Est. Ce projet vise à réduire la congestion d'une vieille route reliant les deux villes. Le coût est estimé à 1 milliard de dollars. Cette infrastructure fait partie du corridor nord et constitue un réseau routier crucial en Afrique de l'Est qui relie le port de Mombasa à un vaste hinterland comprenant l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, le Soudan du Sud et l'Est de la RDC. Au Nigeria, le ministre d'État aux ressources pétrolières a annoncé un investissement de près de 5 milliards de dollars dans la région du Delta pour les trois prochaines années. Le gouvernement veut corriger les erreurs des 10 dernières années. 40 milliards de dollars injectés dans la région n'ont produit aucun résultat. Le ministre a reconnu qu'il est impossible de voir un réel investissement d'un milliard de naira ou même de 500 millions de naira. Le Zimbabwe veut rejoindre le Commonwealth. Cette requête intervient 15 ans après le départ de Harare de l'organisation. Cette volonté est vue comme un geste traduisant le désir du président Emmerson Mnangagwa de normaliser ses relations avec la communauté internationale. Monsieur Mnangagwa a également invité des observateurs de l'organisation à superviser les prochaines élections qui se tiendront en juillet. Si les élections se déroulent avec succès, le pays va bénéficier de financements auprès de partenaires internationaux.
Et on enchaîne sur les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Match en retard de la journée de la Ligue africaine des champions.
Et au stade du 28 septembre à Conakry, match nul de but partout entre Oroya et les Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud pour le compte de cette deuxième journée du groupe C de la Ligue des champions. Initialement prévu le 15 mai, ce match avait été déplacé d'une semaine à la demande du club sud-africain et après accord du club guinéen en cause, le déplacement la semaine dernière du FC Barcelone en Afrique du Sud. Après ce match nul de but partout, Oroya est premier ex-aequo du groupe C avec 4 points.
J-4 avant la grande finale de la Ligue des Champions.
Remporter la Ligue des Champions deux fois de suite ne les a pas rassasiés. Zinedine Zidane et le Real Madrid sont plus motivés que jamais pour remporter une nouvelle C1 avant la finale de samedi à Kiev. Personne ne peut nous dire qu'on a moins faim, à souligner l'entraîneur du club merengue. L'expérience du Real à ce stade de la compétition est incomparable par rapport à celle de Liverpool en finale pour la première fois depuis 2007.
La continuité à la tête de la sélection espagnole.
Julen Lopetegui, sélectionneur de l'Espagne depuis 2016, a vu son mandat à la tête de la Roja prolongé jusqu'en 2020, avant même de partir pour le Mondial en Russie, annonce de la Fédération espagnole. C'est une marque de confiance pour l'ancien gardien de but de 51 ans à 3 semaines du début du Mondial en Russie. La Fédération espagnole n'a pas précisé si le nouveau contrat courait jusqu'avant ou après l'Euro 2020.
Les playoffs NBA se poursuivent dans le championnat nord-américain de basketball.
Et oui, la superstar de Cleveland, LeBron James, a écœuré Boston, dominé 111-102. LeBron James qui a complètement relancé la finale de la conférence Est avec ses 44 points. Le cinquième match mercredi à Boston peut être le tournant de cette série puisque Cleveland semble avoir pris l'ascendant. Tandis que les Celtics ont remporté les 9 matchs disputés dans leur salle depuis le début des playoffs. Le vainqueur de cette finale de la conférence Est sera opposé à Golden State ou à Houston, alors que les Warriors, champions en titre, mènent 2-1 avant le 4e match cette nuit dans leur salle.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Diriec. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Passe au dossier du jour. Au Burundi, le président de la commission électorale a proclamé lundi que le référendum constitutionnel a été accepté avec plus de 73% des voix et une participation de 96% des inscrits au scrutin. L'opposition intérieure ne reconnaît pas ces résultats provisoires avant confirmation par la Cour constitutionnelle. La plupart des Burundais interrogés estiment que les résultats étaient connus d'avance. Reportage de notre correspondant à Bujumbura, Christophe Kourandiza.
Devant un parterre des membres du gouvernement, des partis politiques et un fait campagne pour le oui ou le non, d'observateurs nationaux et du corps diplomatique accrédité à Bujumbura, le président de la Commission électorale nationale indépendante a proclamé que les huiles a largement emporté au cours du scrutin référendaire Pierre Claver Ndayichari.
Le nombre de votants au niveau de cette assemblée nationale, 4 676 296. Et le taux de participation au niveau de cette synthèse nationale, donc au niveau national, c'est 96,4%. Le oui au niveau national représente 73,6%. Le non représente 19,34%. Les nuls représentent 4,11%. Et les abstentions représentent 3,28%.
Certains habitants de la capitale estiment que la Commission nationale électorale indépendante n'a pas donné les véritables résultats, surtout dans la capitale.
Pendant le déroulement des élections, beaucoup de gens ont voté non, d'après ce qu'ils ont dit. Mais le résultat que la CENI a sorti était concerné par le oui. Ces élections ne sont pas bien préparées, c'est-à-dire qu'ils avaient une mission de voler les élections pour que le oui va gagner.
Non, je ne suis pas étonné. C'était des choses qu'on a préparées. Le oui devait gagner. Ce qui se passe dans la politique, c'était une préparation donc qu'on a fait pour rester au pouvoir. Peut-être chérie. Ça devait y être quand même.
L'opposition interne s'étonne que les résultats sortent plus de 3 jours après le vote. Bien d'opposants intérieurs affirment que le pouvoir et la CENI ont profité de tout ce temps pour le tripatouillage des résultats, des chiffres. Les scores dans toutes les 18 provinces du Burundi varient entre 50 et 90%. Le vice-président du parti Amizero Barundi, Evariste Ndayimbenda, ne reconnaît pas les résultats de cette parodie d'élection selon ses dires.
Je dois dire que j'ai été assez surpris à écouter le président de la CENI. On dirait que tout est au rose. Depuis l'annonce de ce processus, vous savez qu'il y a des gens qui ont été menacés, des gens qui ont été limités, des gens qui ont été terrorisés, des gens qui ont été emprisonnés, voire tués, y compris jusqu'au cours de cette campagne. Alors que de tout ça, ils ne disaient rien, qu'ils présentaient les choses comme relevant d'un monde des meilleurs. Je suis très très sûr. Bon, je crois que le code électoral prévoit des procédures de recours. On fera recours auprès de la Cour constitutionnelle si j'ai bonne mémoire. Bien sûr que nous allons porter plainte.
Les États-Unis, l'Union européenne, l'Union africaine sont unanimes à affirmer que le processus référendaire au Burundi n'a été ni libre, ni indépendant, ni démocratique. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Opération antiterroriste à Ouagadougou au Burkina Faso. Vers 3h du matin, les forces de sécurité ont lancé un assaut contre une villa à Rayongo, un quartier dans la périphérie de la capitale burkinabé. Un gendarme et trois djihadistes présumés ont été tués. Depuis janvier 2016, les attentats contre le café Cappuccino et l'hôtel Splendide de Ouagadougou, les attaques terroristes sont devenues récurrentes dans le pays. Comment l'expliquer ? Bagassi Koura a joint à Ouagadougou M. Jean-Pierre Bayala, colonel à la retraite, ancien juge militaire.
Il faut tenir compte de l'environnement, non seulement mondial, sous-régional, régional, mais aussi de l'état du continent lui-même qui revient de l'or. Kadhafi avait dit que si on s'en prenait à lui, il allait libérer les forces du mal. Et ce sont ces forces du mal aujourd'hui qui cèdent la terreur un peu partout.
Contrairement aux autres fois, cette fois-ci, ce sont les forces de sécurité qui sont allées à l'assaut des terroristes. Ça veut dire que le travail de renseignement commence à payer.
Le travail de renseignement devrait payer assez longtemps. Devrait payer si, au lendemain des indépendances, les États, les chefs d'État, le président avaient eu cette clairvoyance-là, d'adapter ces forces-là au nouveau contexte, à savoir protéger non seulement le territoire, mais protéger également les populations. Et il y a eu comme une rupture, comme il y a eu une succession logique des forces coloniales, et par conséquent, des forces vivantes en rupture avec les populations. Aujourd'hui, que tout le monde prend conscience de l'importance de chaque citoyen, prend conscience de l'importance du renseignement, qui est le nerf de la guerre, qui est le nerf dans toutes ces luttes-là. Il est évident qu'il y a un regain quand même. Et aujourd'hui, chacun essaie au mieux de changer de comportement et d'aider les forces de défense et de sécurité à combattre le mal.
Comment est-ce qu'on peut arriver à bout du terrorisme, notamment à prendre le contrôle du Sahel burkinabé?
D'abord, il faut se dire que le problème d'Israël, c'est d'être quand même un scandale géologique. Un scandale géologique, ça veut dire qu'il recèle des richesses et par conséquent entraîne naturellement un intérêt international. Donc, cela veut dire que c'est pas demain la sécurité dans la zone sahélo-sahélienne.
Jean-Pierre Bayala, colonel à la retraite au Burkina Faso.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
En République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola a mobilisé les autorités congolaises, l'OMS et de nombreuses organisations depuis le début de l'épidémie. Alors qu'une vaccination ciblée a été lancée lundi à Mbandaka et que les aides affluent dans la région, la question de leur bonne répartition demeure. Raissa Girondin a joint Marie Zemengi, journaliste à Mbandaka.
Par rapport à ça, il faut dire que c'est du jour le jour que les cas d'alerte se présentent. Comme aujourd'hui, là, les malades sont internés au centre de traitement Ebola. Il y avait deux cas d'évasion, dont un malade était décédé hier. Et aujourd'hui encore, il y a eu un cas d'alerte, selon les informations qui sont en notre possession. Et tout ça, c'est dû, je peux dire, au manque de mobilisation concrète des ressources par les partenaires.
Vous pensez que donc, actuellement, un état d'urgence un peu plus mondial concernant l'économie doit être levé?
Ils sont vraiment nombreux sur terrain, mais à terme, des ressources comme ça, ils n'ont pas encore déployé. On vit de permettre aux acteurs de pérenniser les actions à travers toutes les zones de santé qui sont citées. Puisqu'ici, dans la ville de Mbandaka, il y a ces trois zones de santé. La zone de santé de Mbandaka, de Wangata et de Bolenge. Alors, pour déployer les équipes dans tous ces terrains, il se pose un problème de ressources. Il faut la mobilité. Alors, jusqu'à ces jours, bien que la population à son niveau, avec des informations qui est là, elle se prend un peu en charge, elle pratique quelques règles d'hygiène qui lui sont données à travers les médias et autres interventions, mais se pose un problème de ressources. Et vous voyez même que les gens qui sont malades, ils ont un problème. Ils n'ont pas à manger alors que les partenaires avaient promis à ce qu'ils vont supporter ces malades par rapport au kit social. Dans ce sens, Et la façon de créer, de choisir à remédier un problème et en créer un autre.
Est-ce que les gens ont peur les uns des autres, le fait qu'imaginons qu'il y a un cas qui est suspect dans une maison? Est-ce que les gens se parlent? Est-ce que les gens veulent toujours se serrer la main? Comment les habitants vraiment le vivent?
Par rapport à ça, la première semaine, il y avait un peu de résistance. Il n'y avait pas vraiment la bonne information, mais à cette période, l'information est sortie et tout le monde a compris. Et d'ailleurs, la plupart des gens, disons, je te dis, 90% de la population ne se serre plus la main, Et les gens en Bandaka, tout le monde se fait promener avec son désinfectant pour désinfecter à tout le temps les mains. Et donc, c'est par rapport à la pratique, vraiment, les gens pratiquent les règles d'hygiène. L'épidémie, la maladie à gérer, c'est beau là. Ne concerne pas seulement les trois zones de santé de Mbandaka. Et donc, il faut aller jusqu'à la toute dernière zone de santé qui était touchée. Et il y a même l'équipe qui est sur place là, elle est aussi confrontée à ces problèmes. Il n'y a pas de moyens, comment on peut travailler?
Marie Zemengui, journaliste jointe à Mbandaka.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi, plein feu sur la réapparition de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo. Une campagne de vaccination a démarré lundi. Quelle est l'ampleur de cette 9e épidémie en RDC? Les pays voisins courent-ils un risque de propagation? Que sait-on du vaccin expérimental utilisé pour contrer la maladie? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum ce jeudi à 19h30.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Sim Sloumani, présentation Morgane Diriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
Diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les États-Unis ont officiellement transféré le 14 mai leur ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, capitale d'Israël. En déplaçant notre ambassade à Jérusalem, nous avons prouvé au monde, une fois de plus, que l'on peut faire confiance aux États-Unis, a déclaré le conseiller spécial du président Trump, Jared Kushner. Nous nous tenons aux côtés de nos amis et de nos alliés, et plus que tout, nous avons montré que les États-Unis d'Amérique font ce qui est juste, et nous l'avons fait, a-t-il ajouté. En prenant cette mesure, a dit M. Kushner, les États-Unis ont choisi de renforcer les liens entre les États-Unis et Israël. Ces liens ont été forgés à travers une histoire partagée, des intérêts partagés et immortalisés à travers des principes partagés. Les États-Unis soutiennent aux côtés d'Israël parce que les deux pays croient aux droits humains. Nous nous tenons ensemble parce que nous croyons que la démocratie mérite d'être défendue. Et les États-Unis soutiennent aux côtés d'Israël parce que nous pensons et savons que cela est juste, a déclaré M. Kushner. Israël prouve chaque jour la puissance illimitée de la liberté. Cette terre est la seule au Moyen-Orient où juifs, musulmans et chrétiens et des gens de toute confession religieuse peuvent vivre et prier conformément à leurs croyances, a dit M. Kouchner. Les États-Unis demeurent engagés pour une paix durable et sont prêts à soutenir un accord de paix de toutes les manières qu'ils peuvent, a déclaré M. Kouchner. Nous croyons qu'il est possible pour les deux camps d'obtenir plus qu'ils ne concèdent afin que tous les gens puissent vivre en paix, à l'abri du danger, libres de toute peur et à même de poursuivre leurs rêves. Les États-Unis reconnaissent que la question de Jérusalem est délicate et continuent d'appeler toutes les parties à maintenir le statu quo concernant les lieux saints de cette ville. Alors qu'Israël entame la 701e année de son existence, une nouvelle page est tournée dans la quête d'une paix durable, a déclaré M. Kouchner. Je pense que la paix est à portée de main si nous osons croire que l'avenir sera différent du passé, a dit M. Kouchner. Le chemin ne sera pas difficile, sera marqué par des moments et des décisions difficiles. Mais si nous avons des grands rêves, si nous menons avec courage, nous pouvons changer des trajectoires de millions de personnes, passant du désespoir à l'espoir sans limite.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.